Bien-aimés de Dieu, je vais commencer par vous donner les salutations. J'ai les salutations de l'Assemblée de l'Église de Réveil de la Chaux-de-Fonds pour vous tous. J'étais chez eux durant ces temps de vacances et ils m'ont dit « Tu salueras bien l'Assemblée là-bas à ton nom ». Alors je vous transmets leurs salutations. Nous avons chanté, Cédric nous a parlé de tous ces noms de Jésus, tous ces noms de Dieu. Nous avons chanté que son nom est merveilleux, que son nom est grand, mais est-ce que toujours nous le réalisons? Est-ce que chaque jour, à un moment donné, nous nous disons, mais le nom de Dieu est tellement grand, tellement puissant? Enfin, moi, ça me fait réfléchir quand j'entends ça. Hein. Vous savez, je réfléchis beaucoup. Ça me fait réfléchir. Alors, pour commencer aujourd'hui, vous savez, je suis en stage pour 10 mois chez vous, je suis déjà à peu près à la moitié de mon stage, et toute une partie de mon stage était un peu de vous encourager, de vous aider à découvrir vos dons, vos talents, vos appels et tout ça. Donc du coup, je vous ai fait des prédications là-dessus. Au mois de septembre, je vous ai parlé des dons et comment Dieu peut nous utiliser, même quand on est complètement boiteux. Au mois d'octobre, avec Pedro, nous vous avons apporté nos témoignages de ce que nous avions vécu à la Chaux-de-Fonds durant une semaine d'évangélisation. Nous vous avons parlé de la présence et de la puissance de Dieu et comment celles-ci sont importantes dans nos vies de chrétiens. À Noël, je vous ai parlé d'une partie de l'identité de Jésus, comment Jésus est Seigneur, Roi, Serviteur et Sauveur. Et en fait, aujourd'hui, je vais un peu continuer dans ces thèmes-là parce que la fin de mon stage au mois de juin va se clôturer par un gros week-end d'évangélisation. On a Manu Richer, que vous avez déjà vu au mois de mai, qui va venir, qui est un ministère d'évangélisation, un ami à moi, et qui va venir pour 3 jours. 3 jours durant lesquels nous allons avoir des sorties dans la rue, des temps dans l'église, de prédications, de concerts, de repas, tout ça. Et c'est vraiment, pour le conseil et pour moi, vraiment un projet d'église. L'idée, c'est de vous emmener avec nous, que vous veniez, qu'on aille ensemble et que chacun, avec les possibilités que vous avez, vous vous leviez, vous trouviez votre place, quel que soit l'âge que vous avez, le bâtiment que vous avez, peu importe, que chacun d'entre vous puisse trouver sa place dans ce projet. Donc, pour vous encourager, on va amener des prédications comme ça sur les divers thèmes par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intervention divine et voir quels sont les obstacles, enfin certains, hein, parce que des obstacles, il y en a beaucoup, mais en tout cas, en citer quelques-uns, de ces obstacles qui peuvent empêcher l'intervention divine dans nos vies. Pour cela, nous allons aborder le psaume 78 et tout un passage de l'Épître aux Hébreux, avec lequel nous allons commencer. Parce que malgré le fait que l'Épître aux Hébreux a tendance à être un épître assez austère, on le voit toujours comme quelque chose de très dur, en fait, cet épître est un témoignage qui traite de la puissance de Dieu pour nous sauver. Il tourne autour de 2 axes. Il est rappelé les actes de puissance que Dieu a manifestés dans l'Ancien Testament. Et il est démontré que Jésus est si supérieur à tous et qu'il est un sauveur parfait. C'est intéressant, hein? Donc, nous allons nous arrêter sur l'un des passages les moins compliqués d'Hébreux, mais quand même qui va nous interroger. C'est la fin du chapitre 11 et une partie du chapitre 12. Donc, au début du chapitre 11, il est parlé des héros de la foi, de tous ces gens qui se sont battus et qui ont été jusqu'au bout pour Dieu. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 29, donc chapitre 11, verset 29, et nous irons jusqu'au début du 35. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, car elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, et des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Magnifique, hein? Vaillants, ces héros. À l'heure actuelle où nous sommes ici en 2020, nous vivons dans un monde où l'être humain est de plus en plus puissant. En tout cas, les moyens technologiques le lui font croire. Plus l'homme pense qu'il est plus puissant, plus il se produit en lui un détournement de confiance. Dorénavant, l'homme croit en l'homme. « Je crois en moi-même » devient son credo. Chaque début d'année, l'être humain pense que l'année à venir, il va connaître encore plus de puissance. Forcément, la technologie s'améliore, tout va toujours plus vite, donc l'homme va s'améliorer et devenir encore plus grand et plus puissant. Cela lui fait oublier l'autre réalité, la réalité de Dieu. Le message de la puissance de Dieu est vraiment important. Nous devons nous en rappeler, bien-aimés. Et ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous rapporte le témoignage de la puissance de Dieu. Dans le peu que nous venons de voir, il nous est parlé de la puissance de Dieu. L'accent est mis sur la foi, mais ce n'est pas parce que la foi est puissante, mais parce que la foi est le déclencheur de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit en répondant à la foi de ses enfants, de ses serviteurs, de ses servantes. C'est parce que le peuple hébreu s'est mis en place et a fait le pas de quitter l'Égypte et de suivre Moïse, et donc Dieu, enfin Moïse n'était pas Dieu, hein, qu'on s'entende bien, mais Moïse obéissant à Dieu, de suivre Moïse, que Dieu a ouvert la mer Rouge pour eux. Il n'a pas ouvert d'avance la mer Rouge. Ils ont eu le temps de trembler en se disant « qu'est-ce qu'on va faire ? Où c'est qu'on va aller ?» Et Dieu a ouvert la mer Rouge. Mais il y a quelques obstacles. Et parmi eux, le premier obstacle que nous trouvons, c'est d'oublier combien Dieu est grand. C'est celui auquel nous sommes le plus confrontés. Nous risquons d'enfermer Dieu dans un système et dans un mode de pensée qui est le nôtre. Tout dépend du milieu duquel on vient ou dans lequel nous vivons. Cela va se manifester à travers nos demandes à Dieu. Nous allons lui dire « Tu as promis de me le délivrer, donc tu le feras. » Et ça va se passer comme je le souhaite et comme je le veux. Ou bien « Je le crois, si c'est ta volonté, Seigneur, mais puisque je le crois, tu vas le faire. » Et du coup, nous attendons la délivrance, la guérison, la suite de nos projets, avec l'idée que cela se fera comme nous le voulons, comme nous le désirons, quand nous le voulons. Alors, nous mettons les choses en œuvre par nous-mêmes. Une autre possibilité, c'est d'oublier comment Dieu est grand au point que nous oublions qu'il puisse intervenir. Nous pensons que Dieu est tellement éloigné de nos préoccupations individuelles, personnelles, familiales, professionnelles, même nos préoccupations d'église des fois. Il est tellement éloigné de nos problèmes et même de nos questions, tellement loin de tout ça qu'il ne va même pas intervenir. Ou au contraire, il peut y avoir des problèmes qui sont tellement grands que Dieu ne peut pas intervenir. Donc, nous décidons et nous faisons par nous-mêmes, parce que Dieu n'est pas assez grand pour le faire. Parce que nous l'enfermons dans une petite boîte. L'autre erreur que nous pouvons faire, que nous savons bien faire, c'est de limiter Dieu à notre échelle. Dans ce cas, on croit que l'intervention de Dieu est possible, mais dans la mesure où il nous semble que c'est possible. Nous faisons Dieu à notre image. Nous lui mettons des limites dans la boîte bien carrée, pas ronde. Nous risquons d'enfermer Dieu dans notre système de pensée, là aussi. Et son intervention devient totalement dépendante de notre propre raisonnement. un raisonnement cartésien, humain, et comme la logique fait que l'on croit seulement en ce que l'on voit, eh bien, on croit en nous-mêmes et en nos forces. Et quand Dieu ne répond pas comme nous le voulons, comme nous le pensons, comme nous l'aimerions, alors ça nous conduit au sentiment d'échec et de remise en question de l'action de Dieu. Quand on voit dans la Bible, beaucoup de personnes suivaient Jésus. Il est écrit que des foules le suivaient. Mais pour beaucoup d'entre eux, Jésus était venu les libérer des Romains. Le problème, c'était l'envahisseur romain. Ce n'était pas eux, ils n'avaient rien fait. Donc Jésus était venu les délivrer de l'envahisseur romain. Le problème, c'est que Jésus ne les a pas délivrés de l'envahisseur romain. Il les a guéris, il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, mais il ne les a pas délivrés des Romains. Donc certains n'ont pas été satisfaits, alors ils ont fait condamner Jésus. L'Épître aux Éphésiens nous dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Pourtant, il se peut que petit à petit, certains parmi nous en soient arrivés à ne plus croire en cela. Parce que Dieu n'a pas agi comme nous aurions voulu qu'il agisse. Ce texte d'Hébreux 11 que nous venons de lire répond à ce risque. Il nous enseigne à faire attention à ne pas enfermer Dieu dans un raisonnement humain. Les désirs humains ne doivent pas limiter l'action de Dieu. Il y a un autre danger aussi qui peut limiter l'action de Dieu, c'est celui de « je pense et puis j'oublie ». Vous connaissez la chanson « Je pense et puis j'oublie » ? Vous la connaissez pas ? Si ? Eh bien, quand on voit l'exemple des Israélites dans le désert, c'est révélateur de « j'y pense et puis j'oublie ». Ils avaient vécu des miracles extraordinaires, les miracles dont nous parle justement le psaume 78. Dieu avait ouvert la mer Rouge devant eux. Et d'ailleurs, Hébreux nous précise bien que quand les Égyptiens ont voulu passer, ils ont été noyés, engloutis, alors que les Hébreux, ils étaient passés totalement à sec. Donc, c'était pas rien, hein, l'ouverture de la mer Rouge. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, enfin, à peu près un an en arrière, j'étais dans une réunion, et quelqu'un enseignait que, en fait, la mer Rouge, elle s'était pas ouverte, que c'était juste une marée. Une marée qui avait eu lieu, elle s'était retirée, puis elle était revenue au mauvais moment, pas de bol, quand les Égyptiens étaient passés. Sauf que la mer Rouge est une mer fermée, donc il n'y a pas de marée sur ces mers-là, où il y en a, mais très très peu. Ce n'est pas comme les océans là qui se retirent sur des kilomètres. Donc la mer Rouge, ce n'était à mon avis pas une marée. Ensuite, le psaume 78, toujours, nous indique que Dieu avait guidé le peuple par une nuée la journée et par un feu ardent la nuit, afin qu'ils ne s'égarent pas dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu est resté avec eux, il les a éclairés, conduits le jour et la nuit. Il a été patient. Hein. Et les versets 15 et 16 du psaume 78 nous disent que Dieu leur a donné à boire en plein désert en fendant les pierres, au point que l'eau a jailli comme des fleuves. Au verset 24, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, ensuite il fit pleuvoir sur eux la viande. Ils mangèrent, ils se rassasièrent à leur faim. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré, nous dit le verset 29. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, nous dit le verset 30. Autrement dit, ils n'étaient pas encore satisfaits. Donc, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ces prodiges. Ils ont vécu tout cela. Et ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et ce qui suit, le psaume 78, 36 et 37, nous dit « Ils se détournaient de Dieu, ils le trompaient de la bouche, ils lui mentaient de la langue, leur cœur n'était pas ferme envers lui, ils devenaient infidèles à l'alliance passée avec lui, ils tombaient dans l'incrédulité. » Après tout ce qu'ils avaient vécu, eh bien encore ils se détournaient de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, face à ça ? Il les a abandonnés dans le désert ? Il aurait pu, hein ? Eh bien, Dieu, il leur a donné une autre solution. Il a donné à Israël les fêtes traditionnelles pour rythmer l'année et leur rappeler les événements. Il leur a donné le sabbat, chaque samedi, qui rappelle l'œuvre de Dieu pour la création qu'on trouve dans Exode et la libération de l'esclavage qu'on trouve dans Deutéronome. Il leur a donné la Pâque, qui était le rappel de l'esclavage et de la délivrance de l'Égypte. La fête des semaines, qui permettait d'être reconnaissant pour les récoltes. La fête des tabernacles, qui rappelait la période dans le désert et la manière dont Dieu les avait conduits malgré leur faiblesse. La fête des expiations, qui parlait du pardon des péchés et rappelait la grâce de Dieu. Et plus tard, il leur a donné la fête de Pourim, depuis Esther, qui rappelait la délivrance des Juifs lorsqu'ils ont été persécutés par Haman. Toutes ces fêtes renvoyaient à des interventions divines de Dieu, rappelant que Dieu est toujours le même dans sa puissance. Pour ces fêtes, le peuple juif, et les chrétiens pour certains, notamment la Pâque, continuent à fêter Dieu. Malgré les siècles qui sont passés, les Juifs continuent à fêter Dieu à chacune de ces fêtes. Nous, quand on fête Pâques, quand on fête la naissance du Christ, on continue à fêter Dieu. Ces fêtes sont censées nous rappeler la puissance de Dieu. Pourtant, entre deux de ces fêtes, beaucoup ont tendance à faire comme les disciples qui avaient assisté à la multiplication des pains, mais qui, à peine quelques temps plus tard, avaient déjà oublié les miracles que Jésus avait faits. Et dans Matthieu 16, au verset 9 et 10, il est écrit que Jésus les reprit en disant « Mais êtes-vous sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les pains des 5000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ?» Les disciples ne comprenaient pas la pensée de Jésus parce qu'ils réfléchissaient seulement à travers leur logique. Cela leur faisait oublier les interventions de Dieu et leur logique leur cachait sa puissance, comme elle l'avait caché aux Hébreux dans le désert qui se plaignaient tout le temps. L'une des solutions pour se rappeler combien Dieu est puissant est de pouvoir contrebalancer notre système de pensée humaine et les idées reçues quotidiennement. Pour cela, il est nécessaire de se rappeler qu'il est dit dans la Bible, la parole de Dieu, combien Dieu est puissant. En lisant la Bible, nous pouvons le découvrir, nous pouvons le voir au fur et à mesure de nos lectures, nous pouvons nous en imprégner. Et en la lisant, nous pouvons découvrir des témoignages plus récents que l'Ancien Testament, comme on le découvre dans l'Épître aux Hébreux. On peut aussi, nous, avoir des témoignages qui vont nous encourager. Et en plus de cette affirmation, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous enseigne sur la manière dont Dieu agit. Quelques exemples nous sont donnés. Au verset 33, il dit que les hommes ont fermé la gueule des lions alors qu'ils étaient faibles. Au 34, ils ont éteint la puissance du feu et repris des forces après la maladie. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter et leur être rendue. La résurrection est l'un des plus grands miracles de la puissance de Dieu. Vous vous rendez compte ? Certains, ils étaient morts plusieurs jours, hein, depuis plusieurs jours quand ils ont été ressuscités. Alors à notre époque, on ne voit plus, vous allez me dire, on ne voit plus des résurrections de la sorte. On voit d'autres formes de résurrection à notre époque. Parmi vous, peut-être certains se sont convertis en étant dans un état lamentable et on voit cette résurrection intérieure, cette reconstruction. Moi, je vous ai déjà témoigné de ma vie. Vous savez par où je suis passée et vous voyez où je suis maintenant. Comment le Seigneur m'a reconstruit à l'intérieur. Comment il nous reconstruit, il nous ressuscite psychologiquement, émotionnellement. Il nous relève. Tout ce que nous lisons dans la Bible et dans l'Épître aux Hébreux nous rappelle la puissance de Dieu. Et pourtant, là, on l'a vu, Dieu a agi avec des hommes et des femmes imparfaites. Gédéon a remporté la victoire avec seulement 300 hommes qui étaient armés d'une torche, d'une trompette et d'un vase chacun. Imaginez, ils avaient des épées, mais elles n'étaient pas là. Imaginez aller à la guerre avec une torche, une trompette et un vase. Vous allez les croire qu'on vous prend un peu pour des imbéciles, hein. Mais eux, ils ont vaincu. Barak n'était pas baraqué, hein, faut pas croire. Il est plutôt connu comme un poltron, peureux, froussard. Et c'est seulement avec 10 000 hommes, alors ça fait peut-être beaucoup quand on ne sait pas ce que c'est, mais c'est seulement avec 10 000 soldats qu'il a vaincu l'armée ennemie qui était 10 fois plus nombreuse. David, à lui tout seul, il a échappé plusieurs fois au roi Saül et à son armée puissante. Ils étaient des milliers, ils n'ont pas réussi à le trouver, lui tout seul. Rahab était une prostituée. Et pourtant, elle aussi, elle a servi, elle a sauvé. Dieu a manifesté sa puissance à travers elle aussi. Tous ces récits extraordinaires, que ce soit le psaume 78 hébreu et bien d'autres encore, même s'ils s'étalent sur plusieurs siècles, tous nous parlent de la grandeur de Dieu. On voit aussi dans Hébreux 11, 33, une autre manifestation de l'intervention de Dieu. C'est écrit « Ils exercèrent la justice ». C'est-à-dire que ses serviteurs et ses servantes ont fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Pas à leurs propres yeux, pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Et un autre miracle qui confère la force de Dieu, malgré l'opposition violente, ils ont obtenu la réalisation de leurs promesses. Ils se sont battus pour Dieu, pas pour eux. Ils se sont levés pour Dieu, pas pour eux. Et ils ont obtenu la réalisation de leurs promesses. Ils se sont appuyés sur ce que Dieu avait dit. Et ils ont vu que Dieu avait fait changer le cours des événements et le cours de leur vie. À travers tous ces exemples, tous ces récits, nous voyons vraiment comment Dieu a manifesté sa puissance, mais aussi comment il veut agir avec nous aujourd'hui. Et nous allons lire la suite de Hébreux 11, donc de la suite du verset 35 jusqu'au 38, où d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On va aller un petit peu plus loin. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voilà une suite gênante quand même, hein. Où est l'action de Dieu pour eux? Où est la puissance de Dieu dans de telles actions? Où est la puissance de Dieu pour tous les chrétiens qui, à notre époque aussi, subissent des injustices autour de nous? Pour ces millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés, pour tous ceux qui sont rejetés, pour tous ceux qui souffrent physiquement, pour tous ceux qui souffrent émotionnellement, moralement, où est la puissance de Dieu dans ces cas-là? Dans ce passage d'Hébreux 11, on trouve une première réponse qui est liée au choix personnel. Au verset 35, on voit que les serviteurs et les servantes ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Ils aspiraient à connaître une délivrance totale, pas seulement une délivrance ici, dans ce monde, mais une délivrance totale. leur aspiration à vivre dans la présence de Dieu et à ne plus vivre dans ce monde d'épreuves était plus fort que leur aspiration terrestre. Il y a quelques mois en arrière, j'ai rencontré un missionnaire de Porte Ouverte et il nous a expliqué que parmi les chrétiens qui sont persécutés dans certains pays et qui sont assassinés pour leur foi, eh bien, quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on prie, ils ne demandent pas à ce qu'on prie pour que ça s'arrête, pour que leur persécution s'arrête, pour qu'on arrête de les tuer au nom de Jésus. Ils demandent à ce que nous, les Européens, on prie pour qu'ils ne perdent pas la foi, pour qu'ils puissent s'affermir dans leur foi, pour qu'ils gardent la foi. Que leur foi ne fléchisse pas. C'est ça leur désir. Ils sont des chrétiens comme nous, avec des problèmes différents. Et leur plus grande peur, c'est de perdre la foi et que leur foi fléchisse. Ce n'est pas d'être assassiné au nom du Christ. Comme dans la Bible, dans le monde actuel, certains perdent la vie dans des souffrances atroces. On l'a vu au verset 37 du livre aux Hébreux, certains ont été sciés. C'est le prophète Ésaïe qui avait été se cacher dans un tronc d'arbre et qui a été scié en deux directement dans le tronc d'arbre. Alors où était la puissance de Dieu dans ces moments-là? On pourrait se dire pourquoi Dieu n'est pas intervenu, lui qui est tout puissant. Eh bien, ce n'est pas à cause de leur manque de foi que Dieu n'est pas intervenu, parce que leur foi n'a pas fléchi, parce que jusqu'au bout, ils se sont accrochés à lui. Et dans l'Épître aux Hébreux, ils sont cités en dernier, à la fin de la liste. Ils ne sont pas cités à la fin parce qu'ils sont moins importants que les autres. Ils ne sont pas cités à la fin parce qu'ils sont moins intéressants. Ils ne sont pas écrits tout petits en bas de la page. Ils sont cités à la fin pour être mis en valeur, parce que souvent, nous nous rappelons de ce que nous lisons en dernier, avant de nous rappeler ce que nous avons lu en premier. Et le verset 39 nous dit bien que tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur avait été, ce qu'il leur était promis. Et le verset 40 nous en donne la raison, c'est parce que Dieu avait quelque chose de mieux pour eux qu'une intervention miraculeuse sur la terre. Il leur a donné ce qui est parfait pour eux. Peut-être que parmi eux, certains auraient préféré voir la réalisation de leurs rêves. Ils auraient peut-être aimé avoir une belle maison, un château, une belle vie, une belle famille, une belle voiture, un emploi qui leur donne un grand prestige, qu'ils soient connus mondialement. Le dernier home cinéma, un nouveau natel. Peut-être que certains auraient aimé mourir paisiblement dans leur lit. Mais Dieu a choisi de leur donner autre chose. Il a voulu leur donner ce qui était le meilleur pour eux et aussi ce qui était le meilleur pour nous, puisqu'il est écrit, « Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » L'auteur du texte aux Hébreux nous associe à ce projet. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir si est dans un arbre, hein, qu'on s'entende bien. Mais nous sommes associés à ce projet d'atteindre la perfection. Ce n'est pas évident, je sais. Nous avons, nous aussi, pour certains d'entre nous, la plupart même connu des situations qui soit l'intervention miraculeuse de Dieu ou le fond du trou. Certains parmi nous le traversent encore. Vous savez, moi, il y a bientôt 16 ans, j'ai été guérie de manière miraculeuse. J'ai été guérie d'un cancer foudroyant pour lequel les médecins m'avaient donné quelques mois à vivre. S'ils m'opéraient, ils allaient me gagner un an ou deux de plus. 16 ans plus tard, je suis là. Complètement guérie. J'ai été guérie de manière miraculeuse. J'ai été guérie de ce cancer, mais je n'ai pas été guérie de la maladie génétique que j'ai, qui est incurable humainement parlant. Des jours, quand j'ai trop mal, il m'arrive de râler et de dire « Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas ?» Et d'oublier qu'il m'a guérie d'un cancer qui m'a sauvé la vie. La maladie à côté n'est rien, mais des fois, il m'arrive de râler. Il y a quelques années, j'ai connu le fond du trou, vous le savez. Alors je sais ce que c'est. Et quand je vous parle là maintenant, je ne dis pas que vous, j'y suis aussi. Des fois, nous oublions les interventions de Dieu dans nos vies. Et nous pensons peut-être que dans tel domaine, il n'est pas intervenu. Nous considérons que son intervention n'a pas eu lieu, parce qu'elle n'a pas eu lieu comme nous voulons qu'elle ait lieu. Alors nous nous disons peut-être que Dieu n'est pas si puissant que cela. Peut-être que les miracles n'existent plus. Enfin, sûrement qu'ils n'existent plus. Bien que moi, je suis là devant vous et je peux vous dire que j'ai vécu un miracle. Ah oui, on peut se dire aussi tout ça, c'est bien beau, mais la Bible, elle est vieille. Hein. Puis moi, je n'ai pas leur foi. Hein. Mais il n'empêche que quoi qu'on se dise, Dieu reste le Tout-Puissant. Il reste celui dont la puissance est constante. Tout à l'heure, on a chanté que la terre a tremblé. Il est celui qui fait trembler la terre. Il est celui qui peut déclencher un volcan. Il est celui qui peut faire bouger les montagnes. Il est celui qui peut nous enlever au ciel, là, maintenant, tout de suite, s'il le veut. Et ce passage d'Hébreux 11 force un peu notre compréhension, parce qu'il nous oblige à voir que Dieu est présent dans toutes les situations, même dans les extrêmes. Et même dans ces situations extrêmes, Dieu a un plan pour nous. Et il nous donne la recette pour le vivre, ce plan. C'est la recette consiste à avoir la confiance et la foi en Dieu. Si ces hommes et ces femmes dont parle la Bible ont persévéré malgré les épreuves, c'est parce qu'ils ont continué à placer leur foi en Dieu. Et on va regarder la suite dans Hébreux 12, les versets 1 et 3. On va sauter juste un petit bout. Mais il est écrit, « Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance en gardant les yeux fixés sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Et à peine plus loin, au 3, il est écrit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. » Bien-aimés, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est là la recette. Car la foi est le moyen de voir l'action de Jésus et de vivre la force de Dieu. La foi permet de tenir bon malgré les épreuves, et le verset 2 nous le rappelle bien, c'est Jésus qui suscite notre foi et l'amène à la perfection. C'est parce que notre foi vient s'ancrer en Jésus qu'elle devient forte. Grâce à la foi et grâce à Jésus qui l'a construit, qui l'a fait grandir, un chrétien peut découvrir à travers les difficultés une profondeur spirituelle qu'il ne découvrira pas autrement. C'est un peu comme un voilier, vous savez. Peut-être certains parmi vous font du bateau. Quand on fait du bateau et qu'on sort les voiles sur les voiliers et que le vent est contraire, eh ben c'est difficile, hein, on rame comme on dit. Hein. C'est difficile d'avancer. Le bateau, il avance petit à petit, mais quelques jours plus tard, on est de l'autre côté de l'océan. On a réussi malgré les vents contraires. Eh bien, par la foi, c'est pareil. Malgré les vents contraires, avec la foi ancrée en Christ, eh bien, on traverse. On traverse les océans et même on va marcher sur l'eau avec Jésus. La foi en Dieu est le moyen de dépasser le mystère de la difficulté et de voir les réalités spirituelles promises. Pas à pas, Dieu nous permet de vivre ce que Hébreux 12, 2 nous dit. Jésus nous a ouvert le chemin de la foi et il la porte à la perfection. Alors nous pouvons enlever nos lunettes, parce que souvent nous avons des lunettes qui nous font voir la vie tout en rose ou tout en noir. Eh bien, nous pouvons les enlever, parce que ce passage de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que nous pouvons nous attendre à Dieu et qu'il agit quand on lui fait confiance. Il agit à sa manière et non pas à la nôtre, mais il agit. Alors, dans cette période de l'année où nous sommes, ce début d'année 2020, c'est ma première prédication et j'avais vraiment à cœur de vous parler de tout ça pour vous encourager. Parce que dans ce temps où on a pris des résolutions, où on en prend encore, quelqu'un m'a dit l'autre jour, on a jusqu'au 31 janvier pour amener les vœux et prendre nos résolutions. Il faut absolument les prendre. Donc dans cette période de l'année où on prend des résolutions, je vous encourage à prendre fermement la résolution de ne pas nous confier dans la puissance que pourrait nous donner le monde, mais de nous confier en Jésus-Christ. À ne pas agir ou nous positionner comme le ferait le monde, mais à nous positionner face à Dieu, devant Dieu. Je vous encourage à prendre la résolution d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus, quoi qu'il arrive durant cette année. À lui demander de vous aider à vous affermir dans la foi, à vous aider à toujours mieux comprendre la Bible, à être toujours et davantage plus convaincu que Dieu agira dans votre vie, même si c'est différemment de ce que vous aviez envisagé, même si c'est plus difficile, même si c'est plus douloureux, même si c'est moins bien de notre point de vue humain, moins beau. Je vous invite à vous rappeler que la puissance de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et que ce que Dieu vous donnera sera toujours le meilleur pour vous. Je vous invite à vous rappeler que Dieu agit et qu'il agit toujours et encore à l'heure actuelle. Et je vous encourage à avoir ce désir au cours de cette année 2020 de devenir vous aussi des héros de la foi. Et pour ça, d'oser vous lever pour aller porter sa lumière, d'aller porter sa parole autour de vous, quelle que soit la manière dont vous le ferez. Je vous encourage pour tous les jours de cette année. Amen. Amen. J'aimerais bien qu'on reprenne ce chant, si c'est possible. Le nom est merveilleux. Le nom est victorieux. La terre a tremblé. Et qu'on se lève et qu'on le fasse avec notre cœur et la motivation.